Les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mal de vivre. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire. Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer, maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment, monsieur, comme ça il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient, j'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est les Grégores, chaque semaine sur Hugo Ligarigue, Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et Radio Primitive sur Reims. Les Grégores, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir, je crois qu'on va passer notre quatrième épisode sur la guerre, c'est la révolution en Espagne, en 36, voilà.
Voilà, donc je vous rappelle qu'il y a 20 épisodes au total, hein, et donc on vous passe le quatrième, donc qui dure à peu près 35 minutes cette semaine. Ah.
Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes.
Quatrième épisode. Le groupe des internationaux de la colonne de routine. Antonio Jiménez est sur le front d'Aragon, où il a subi la première épreuve du feu.
La création de sections internationales au sein des colonnes réparties sur le front d'Aragon, bien avant l'arrivée des brigades internationales en octobre 1936, est un des éléments de réponse des prolétariats européens et américains. De nombreux antifascistes étrangers, allemands et italiens surtout, se trouvent déjà à Barcelone en juillet, soit en tant que réfugiés, soit pour participer aux Olympiades du Travail, organisées en contrepoint aux Jeux Olympiques de Berlin. Mais cette solidarité impliquée reste essentiellement individuelle. Aucun dirigeant du prolétariat international n'appelle à la grève pour empêcher l'asphyxie dont est victime la Révolution espagnole. On ne dira jamais assez comment le Front populaire français a saboté les efforts de son homologue espagnol pour repousser le déferlement des troupes factieuses aidées par l'Italie et l'Allemagne. Le 19 juillet, le gouvernement Giral envoie un télégramme à Blum. Surpris par dangereux coups d'État militaires, vous demandons de nous aider immédiatement par armes et avions, fraternellement, vôtre. Blum y répond favorablement, puis se soumet à la pression anglaise. Dès le 27 juillet, avant même que la non-intervention ne soit déclarée, la France bloque à sa frontière les armes achetées et payées par la République espagnole. Début août, Londres et Paris font pression sur le gouvernement de Madrid pour qu'il évacue la rade de Tanger. La voie étant libre, les premiers contingents massifs de Marocains, enrôlés souvent de force par Franco, débarquent au sud de l'Espagne. Tout contribue à précipiter la chute des villes du Nord, où les troupes de Franco vont massacrer la population ouvrière. De leur côté, Hitler et Mussolini envoient rapidement à Franco armes, avions, bateaux de guerre et troupes. Quant à l'État soviétique, cette révolution est un acte inopportun qui dérange son jeu diplomatique, fait de rapprochement avec les démocraties bourgeoises. Mais surtout, ce qui se passe en Catalogne et en Aragon lui échappe totalement et l'oblige à révéler sa vraie nature de patrie de la contre-révolution. Il suffit de lire l'article édifiant d'André Marty, un des secrétaires du Comintern, rédigé en août 1936 et qui se termine ainsi. Dans un pays comme l'Espagne, la classe ouvrière et tout le peuple ont comme seule tâche possible non pas de réaliser la révolution socialiste, mais de défendre et de consolider la révolution bourgeoise démocratique. La stratégie du grand camouflage, avec sa cohorte de calomnies et d'assassinats, est en route. Sur le plan national, en août 1936, les positions du front se stabilisent. Les milices ne manquent pas d'hommes, mais en 2 semaines de guerre, les munitions sont épuisées et non renouvelées. À l'arrière, les républicains, de plus en plus dans l'orbite des staliniens du Parti communiste espagnol, tentent de réoccuper les postes qu'ils avaient abandonnés, n'hésitant pas à saboter et freiner ce qui fonctionne sans eux. Le 4 septembre 1936, le nouveau président du Conseil et ministre de la guerre, Largo Caballero, qui a vite oublié ses accents révolutionnaires de l'été, constitue un nouveau gouvernement central à majorité socialiste, avec participation des communistes. Au programme, en finir avec le pouvoir ouvrier, nationaliser l'industrie de guerre et rétablir la petite propriété privée.
À cette époque qu'arriva un groupe d'étrangers, à Pina. Il était composé de Français et d'Italiens. Leur chef, Berthomieu, était un officier de l'armée coloniale française, en rupture de banc, habitué à toutes les ruses de la guérilla. Il était accompagné de 2 Français, Ridel et Carpentier, tous 2 prénommés Charles, d'un Savoyard à Finenghi. Je ne me suis jamais soucié de savoir s'il était italien ou français, car il parlait indifféremment les 2 langues. D'un Italien, Scolari, et d'un Espagnol, petit de taille, Lacaille. J'ai oublié le nom des quelques autres qui étaient là aussi. Le lendemain de leur arrivée, je m'intégrai au groupe. Les habitants accueillirent avec curiosité ces gens qui parlaient des idiomes incompréhensibles pour eux. Mis à part Berthomieu et Lacaille, personne ne parlait espagnol. On se méfiait un peu, mais cela ne dura que quelques jours. Les troupeaux de brebis appartenant aux paysans de Pina se trouvaient de l'autre côté du fleuve, le jour où nous occupâmes la ville. Et ils y étaient restés. Nous les voyons tous les jours venir paître à 2 ou 3 kilomètres de la rive d'en face. L'eau était basse, et en aval de Pina, il y avait un gué qui nous permettait de passer l'Èbre et d'aller nous promener en patrouille, de façon à reconnaître le terrain en prévision d'une avance. Le passage du fleuve et les patrouilles étaient des idées de Louis. Toutes les nuits, il s'agissait pour 4 d'entre nous, à tour de rôle, de franchir les gués. 2 restaient sur la berge pour couvrir ceux qui furetaient vers l'intérieur. Les autres montaient la garde, prêts à épauler la patrouille en cas de pépin. Un matin où je venais juste d'entamer le dernier quart de veille, l'inquiétude monta, car habituellement les hommes rentraient bien avant l'aube. Le jour pointait. J'étais sur la plus haute branche d'un peuplier. Je m'étais hissé très haut pour voir le plus loin possible, et soudain mon attention fut attirée par un petit nuage qui semblait s'élever du sol. Je pris les jumelles. Merde, qu'est-ce que c'est ? Je dégringolai de l'arbre et réveillai Berthomieu. Louis, je crois que j'ai des visions. Il me suivit sur mon perchoir. Je n'avais pas eu de vision. C'était bien un troupeau de moutons qui avançait dans la plaine, vers le fleuve. 4 hommes, un de chaque côté du troupeau et 2 derrière, couraient et gesticulaient en criant. Affinenghi et Scolari avaient découvert l'enclos où les bêtes passaient la nuit. Affineng y avait d'abord poignardé l'homme de garde, puis son camarade qui dormait. Ils appartenaient tous deux à la Guardia Civile. Les bergers reposaient à l'intérieur de la basse-cour. Scolar y les avait persuadés de conduire le troupeau à Pina. On remit le bétail à la collectivité, et les bergers retrouvèrent leur famille. Mes collègues, dès lors, furent l'objet de l'attention de tout le monde, car chacun voulait savoir comment les choses s'étaient passées. Pour ma part, comme ni l'un ni l'autre ne parlait espagnol, je fus obligé de servir d'interprète. Scolari venait de Toulon, où il travaillait, à ce qu'il m'en dit, à l'arsenal. Il était un pacifiste, partisan de la non-violence, et il ne portait jamais d'armes. Il était venu en Espagne non pas pour se battre, mais pour être témoin d'une lutte qui l'intéressait au plus haut point pour sa réforme sociale. Il avait du courage, mais celui-ci ne lui servait pas pour tuer. Quand un blessé avait besoin qu'on aille le chercher sous les balles, il en oubliait le danger. Je l'ai vu une fois aller chercher un blessé sous les feux d'une mitrailleuse. Les balles sifflaient de tous les côtés, c'était un vrai feu d'enfer. L'ennemi, qui nous dominait du sommet d'une colline, avait stoppé notre attaque, nous obligeant à regagner notre position de départ. L'homme tomba à une centaine de mètres de notre tranchée. Scolari, torse nu, sauta le parapet et se mit à courir vers le blessé. Son geste fou surprit tout le monde, même nos adversaires, qui arrêtèrent leur tir subitement et ne le reprirent que lorsque Scolari fut à l'abri dans notre camp. Affineng, montagnard, paysan et bûcheron des Alpes, aimait la chasse, la lutte et toute activité violente ou dangereuse. Il était grand, 1m80 environ, large d'épaule, fort comme un bœuf. Courageux? Je me demande encore aujourd'hui si l'on peut dire de quelqu'un qu'il est courageux quand celui-ci ne connaît pas le danger. Les missions que je l'ai vu accomplir ont été terminées avec une chance inouïe, sans une égratignure, sauf la dernière, au cours de laquelle il fut blessé. Mais cela aussi fut une chance pour lui, car la blessure était légère et il fut évacué. Cela lui sauva peut-être la vie. Ce groupe cosmopolite grossissait de jour en jour. Ridel et Carpentier, de retour d'un voyage à Barcelone, arrivèrent accompagnés d'une jeune femme, aux longs cheveux noirs. J'appris par la suite qu'elle s'appelait Simone Veil, et qu'elle se disait syndicaliste. Petit à petit, notre unité prenait de l'importance. Les volontaires affluaient, français, italiens, allemands, russes, cubains, et même un Algérien, Ben Salah. Lorsque la colonne d'Urruti avait quitté Barcelone, elle avait traîné avec elle presque toutes les prostituées de Catalogne. Les maladies vénériennes faisaient des ravages dans les rangs des centuries. Gori, comme nous appelions d'Urruti entre nous, fit retirer toutes les filles, sauf celles qui avaient suivi leurs compagnons et dont la conduite était irréprochable. Mais même parmi celles restantes, beaucoup quittèrent le front pour aller travailler à l'arrière. Notre groupe fut bientôt le seul à Pina à comporter des membres du sexe féminin. 6 femmes s'occupaient de l'infirmerie et de la cuisine. Marthe, Madeleine, Simone, Augusta, Mimosa et Rosaria. 2 d'entre elles, Marthe et Madeleine, vivaient en ménage, respectivement avec Pierre et Hans. À l'exception de Simone Veil, qui rentra en France, toutes les autres restèrent en Espagne pour toujours. Marthe, Mimosa et Augusta tombèrent à Perdiguera. Nous passions notre temps à nous entraîner à ramper, à avancer sans bruit au travers des broussailles, à lancer les grenades, à tirer au pistolet et au fusil. Nous étions organisés en groupe d'assaut, de commando, comme on dit aujourd'hui, totalement indépendants. Le capitaine Berthomieux était très à cheval sur le chapitre de la tenue en ville et sur le comportement des hommes dans le contexte de la guerre. Un matin, au rapport, 2 hommes étaient absents. Où pouvait-il bien être? Il n'y avait pas eu de patrouille la nuit précédente, et de toute façon ce n'était pas leur tour. On fit des recherches en ville, personne ne les avait vus. Vers 10 heures, ils rappliquèrent. contents comme des gosses qui en ont fait une bien bonne et qui se sont bien amusés. Il n'était pas obligatoire d'être présent à l'appel, mais il était tacitement admis que quiconque pouvait être appelé à n'importe quel moment du jour ou de la nuit pour une action quelconque, et le PC devait savoir où nous joindre. Ils s'excusèrent auprès des copains et de Louis, car, dirent-ils, ils avaient été pris de court, ayant décidé au dernier moment de participer comme volontaires à l'exécution des prisonniers que nous avions faits au cours d'une patrouille précédente. Dans les premiers mois de la guerre, aucune des deux parties ne faisait de prisonniers. Ceux qui se rendaient étaient fusillés à plus ou moins brève échéance. Louis se mit en colère, la mâchoire crispée. Il marchait de long en large, dans la pièce qui lui servait de bureau et de chambre à coucher. Puis il gueula.
« Rassemblement général, lis en vitesse !»
Une demi-heure après, on était tous devant le PC, et Louis prit la parole.
« Camarades, nous sommes venus de tous les pays du monde nous battre pour une cause juste et humaine. Nous nous battons, mais nous n'assassinons pas. Je ne veux pas que l'on puisse dire demain que le groupe international dirigé par Louis Berthomieux était une unité de bourreaux. Deux d'entre vous ont fait volontairement partie du peloton d'exécution qui a fusillé les prisonniers que nous avons faits. Si vous êtes d'accord avec eux, dites-le-moi, je partirai. Sinon, je vous demande de les exclure du groupe. À vous d'en décider. »
Nous votâmes l'exclusion à l'unanimité, après avoir longuement discuté sur le droit que nous pouvions avoir de leur interdire ce qu'ils avaient fait, puisque tel était leur bon plaisir. Nous trouvâmes un terrain d'entente, en reconnaissant que nous avions le droit de vivre et de mourir avec des gens qui partageaient notre façon de voir et de juger les actes de la vie.
Charles Ridel, Charles Carpentier et Simone Veil, évoqués par Antonio, ont fait connaître leur expérience sur le front dès leur retour en France. Ils s'exprimèrent notamment sur leur propre appréhension de l'usage de la violence révolutionnaire, la fin ne justifiant pas les moyens à leurs yeux. Dans les années qui suivirent, une polémique naquit sur d'éternelles et compréhensibles questions d'éthique révolutionnaire.
Il y avait, de l'autre côté de l'Èbre, une ferme, dont les habitants étaient venus se réfugier à Pina. La famille était composée du père, de la mère, d'un fils de 18 ans environ, et d'une fille de 16 ans, qui, comme cela arrivait très souvent dans les familles paysannes, avait été placée depuis 3 ou 4 ans dans un village des environs, pour servir de bonne dans une riche famille. Un jour, on aperçut la cheminée fumée. Manuel, le fils, nous dit que ses parents pensaient que Conchita, sa sœur, était rentrée à la maison. Berthomieux me demandait si je voulais aller voir ce qui se passait. Manuel aurait bien voulu m'accompagner, mais Louis s'y opposa formellement. Quant à moi, je déclarai que j'irais seul jeter un coup d'œil sur la maison. La ferme se trouvait en amont de Pina, trop loin pour faire passer la fille par le gué. Le trajet était trop long, une bonne heure de marche, et nous risquions d'être interceptés par une patrouille ennemie. On opta alors pour passer en bateau. De plus, après avoir embarqué la petite, je devais pousser une pointe jusqu'à la voie ferrée, à quelques kilomètres du fleuve. Tout se passa bien. Je camouflai mon esquif entre un buisson de ronces et un tas de fagots de sarments de vigne. Puis je me glissai jusqu'au vignoble qui jouxtait la maison. Déjà le jour se levait. Les rayons de soleil éclairaient les toits des bâtiments. On avait rallumé le feu, car un filet de fumée montait vers le ciel. Couché au milieu des pousses sauvages d'un figuier, qui me cachait complètement de ses branches aux larges feuilles, je me posais les questions qui restaient sans réponse. Qui habitait cette maison? Était-ce Conchita, ou quelques fugitifs? Peut-être des fascistes qui nous tendaient un piège? Nom de putain d'Adèle, ils n'ont donc besoin de rien là-dedans? Pourraient sortir pour pisser, s'ils sont des hommes, ou venir chercher du bois, de l'eau au puits? Enfin qu'il ou qu'elle se fasse voir. Je continuai mon soliloque pour ne pas trop réfléchir à ma situation, car je n'étais pas, mais alors pas du tout rassuré. Si personne ne sort d'ici 5 minutes, c'est moi qui vais rentrer. Ça faisait déjà 3 fois que je me donnais 5 minutes pour quitter mon abri, sans arriver à me décider, car la crainte de tomber dans un traquenard me tenait. Pourtant, je ne pouvais pas rester encore longtemps sans rien faire. Il fallait que je prenne une décision. Je me dressai, toujours à l'abri de feuillages, sans perdre de vue la porte de la maison. Enfin, elle s'ouvrit. Une fille de petite taille s'avança vers moi. Elle s'arrêta devant les cèpes les plus proches de la maison et cueillit une grappe de raisin. C'était bien Conchita, la sœur de Manuel. Au moment même où je commençais à écarter les branches de ma cachette, une voix cria
« Nino, qu'est-ce que tu fais ici ?»
Je sentis mon sang se glacer et la sueur perler sur mon front. Lentement, je glissais de nouveau par terre. Merde, il manquait plus que ça. Je n'avais pas vu arriver les 5 soldats qui se tenaient maintenant au coin de la bâtisse, les fusils pointés, prêts à tirer. Ne pouvant pas faire autre chose, j'écoutais. Celui qui paraissait le chef répéta la question.
« Qu'est-ce que tu fais ici ?»«
Je suis chez moi. »«
Combien êtes-vous ici ?»«
Je suis seul. »
« Où sont les autres ? Il faut quitter cette maison. Les rouges pourraient venir et vous massacrer. Il n'y a vraiment personne ?»«
Non, monsieur. »
Le type donna un ordre. Les hommes partirent fouiller les dépendances. La gosse et le chef rentrèrent. J'avais retrouvé mon sang-froid. Il ne me restait plus qu'à attendre qu'ils partent. Je repris mon soliloque. Allait-il partir en emmenant la fille ? Dans ce cas, je devais trouver le moyen de me débarrasser des 5 hommes. Comment ? J'en savais rien. J'aviserai le moment voulu. Pendant que je réfléchissais, je vis les soldats rentrer, une fois leur mission accomplie, dans le bâtiment principal où se trouvait déjà le chef de la patrouille et Conchita. Un long moment passa, puis la petite sortit, accompagnée par un militaire. Elle avait à la main 2 cruchons. Ils allaient chercher du vin au cellier. La gosse n'avait pas froid aux yeux. Trouvant la maison déserte, elle avait dû penser que ses parents et son frère avaient passé le fleuve pour rejoindre les républicains. Enfin, ils sortirent tous. J'entendis celui qui donnait des ordres dire
« Alors, on est d'accord. Tu prépares tes paquets et cet après-midi, on vient te chercher. On met tout dans la charrette et tu viens à Quinto avec nous. »
Je craignais qu'il ne dise à un de ses hommes de rester à la ferme. Mais il n'en fut rien. Et tous partirent de bon pied à leur base. J'attendis qu'ils disparaissent complètement. Puis je m'approchai de la ferme, en me glissant entre les pieds de vigne. Entre-temps, la petite était allée chercher de l'eau au puits. J'étais derrière elle, et je lui dis « Conchita, ta mère m'envoie te chercher. » Saisie, elle fit demi-tour, et me voyant torse nu, une barbe de 3 jours, 2 grenades accrochées à la ceinture, le pistolet à la main, elle laissa choir le seau qu'elle portait. « Tais-toi, ton frère Manuel et ta mère m'ont envoyé te chercher. » Elle se remit vite de sa frayeur, et dit «
Il ne faut pas rester ici. Venez, rentrons. »
Une fois à l'intérieur, elle m'assaillit de questions sur ses parents, sur son frère et sur les gens qu'elle connaissait à Pina. Après avoir répondu comme je pouvais à ce déluge de paroles, elle me dit que les soldats allaient revenir avec une charrette pour déménager la maison et tout emporter à Quinto. Il n'y avait qu'une chose à faire. Partir, traverser l'Ebre avant qu'ils arrivent, car ensuite les berges pouvaient devenir dangereuses. Moins d'une demi-heure après, je poussais la barque dans le courant, avec Conchita à bord. La première partie de ma mission était accomplie. Il ne me restait plus qu'à reconnaître l'itinéraire, du fleuve au chemin de fer. Ce que je fis sans rencontrer âme qui vive. C'était une vraie promenade, avec des pauses au pied des arbres fruitiers, qui me permettaient de calmer ma fringale, en satisfaisant ma gourmandise. Du haut de ces arbres, je scrutais le paysage, à la recherche d'une présence inopportune. Au retour, l'idée me vint de laisser dans la ferme, comme souvenir, les 2 grenades que je portais. La fille n'y étant plus, les soldats auraient été très déçus de ne rien trouver. Je calai la première grenade derrière la porte. Après l'avoir dégoupillée, je bloquai la cuillère avec une cafetière. Pour sortir, j'enjambai la fenêtre. Je mis la deuxième dans un trou, à côté d'une barrique, perçant la cuillère et en la maintenant par un broc à moitié plein de vin. C'est juste après avoir fini mon petit travail que j'entendis les cris des charretiers loin derrière la maison. Ils étaient déjà là. Je partis en bondissant par-dessus les vignes pour aller m'aplatir près du figuier. Ils étaient 8 sur la charrette, tirés par une paire de mulets. Et ils criaient.
Nina !
5 d'entre eux s'enfuirent en courant et rentrèrent en coup de vent dans la maison. Une explosion, suivie ensuite d'un bruit de carreaux cassés et de cris. Un homme sortit en titubant, les mains sur le ventre et le visage ruisselant de sang. Fit quelques pas, tomba. Les mulets épouvantés partirent au galop. Les 3 hommes restés dehors s'étaient cachés dans la vigne. Mon piège avait bien fonctionné. Pendant 5 ou 6 minutes, rien ne bougea. Seul le blessé gémissait. Et de temps en temps appelait.
Madre. Oh, madre.
Un d'entre eux se leva. Et s'approcha du blessé, lui parla, décrocha sa gourde, et après l'avoir agitée, la remit à la ceinture. Elle devait être vide. Les 2 autres s'étaient dressés et regardaient leurs camarades qui leur demanda d'aller chercher à boire. Un des soldats se dirigea vers le cellier, dont la porte grande ouverte laissait voir les barriques. Il hésita à franchir le seuil. Moi, je ne le quittais pas des yeux. Après avoir bien regardé, il entra et ressortit au bout de quelques minutes, la gourde collée à sa bouche. Le salaud l'avait rempli au robinet. Entre-temps, le blessé était mort. En reportant mes regards sur lui, je vis un de ses compagnons passer la main sur ses yeux, puis se lever et se diriger vers la maison. Il en sortit presque immédiatement, parla à ses collègues, et après avoir fait circuler la gourde, 2 partirent. Le 3e, l'arme au pied, s'appuya au mur. J'avais l'impression qu'il me voyait, qu'il m'épiait. J'aurais pu partir, m'éloigner en glissant à plat ventre vers la rive et rejoindre le fleuve. Mais la curiosité me clouait au sol. Qu'allait-il se passer? Rentrerait-il dans le cellier de nouveau? Les autres étaient-ils allés chercher du renfort? Non, ils revenaient, conduisant par la bride les mulets qu'ils attachèrent à un de ces anneaux scellés, à cet effet, dans le mur des granges et des étables. Je compris à leurs gestes, ils parlaient trop bas pour que je puisse entendre leurs paroles, que la charrette avait versé non loin de là. Ils devaient avoir soif, car après avoir éclusé la gourde de celui qui avait fait le plein, ils rentrèrent tous les 3 dans le cellier. Ils n'avaient aucune raison de se méfier. Un avait déjà tiré du vin et il ne s'était rien passé. Pour moi recommença le suspense. Qu'allait-il se passer? Un cri éclata.
Cuidado!
Je vis un homme bondir de la porte, tomber, se relever et s'enfuir. Une explosion. Un 2e corps vint s'écraser par terre. Les bêtes se cabraient et tiraient sur leurs longes pour se libérer, folles de peur. Le survivant courait à toutes jambes en direction de Saragosse, complètement affolé. Je n'eus pas le courage d'aller voir. Je n'avais qu'une hâte, partir. Une fois arrivé sur la rive, que mon regard aperçut de l'autre côté du fleuve les maisons de Pina, je fus saisi d'un tremblement qui me secouait de la tête aux pieds. Mes dents craquaient comme des castagnettes. La peur. Oui, la peur rétrospective, certes, mais la peur quand même. Je n'avais plus qu'une idée. Pas célèbre. Me retrouver parmi les miens, m'asseoir dans la cuisine de la madre et les pieds sous la table. Et je continuais à trembler. Je n'ai jamais pu m'expliquer cela. J'ai eu par la suite d'autres moments critiques, où j'étais vraiment en danger, face à face avec l'adversaire. Mes réflexes sont alors toujours parfaitement joués. Et après les périls passés, une fois en sécurité, ce même tremblement me prenait et me secouait, comme un prunier. Ce n'était pas l'homme civilisé qui raisonnait, et évaluait le danger, organisait la parade et l'attaque. C'était l'animal, en qui l'instinct de conservation ressuscitait la sûreté du geste, l'acuité de l'homme primitif qui veut survivre. Pour cela, doit tuer. Une heure après, Le jour déclinait et j'échouais à une centaine de mètres du gué. J'avais traversé l'Èbre sur 4 fagots de sarment que j'avais attachés avec la corde qui ne quittait jamais ma ceinture et dont je servais pour m'assurer sur les hautes branches des arbres pendant mes tours de garde. De Pina, on avait entendu le bruit des grenades, mais pas de coup de feu. Et on se demandait ce qui pouvait bien m'être arrivé. On me croyait mort, ou prisonnier, ce qui revenait au même. Berthomieux me dit qu'entre la dernière explosion et le moment où la vigie, du haut du clocher, me vit apparaître sur la rive, il s'était passé plus d'une heure et demie. Le temps m'avait semblé à moi beaucoup plus court. Des amis, villageois et miliciens, femmes et enfants, s'étaient échelonnés tout le long du rivage pour me harponner au passage. Mon radeau n'avait pas encore touché à la terre que l'on me saisit, m'emporta pendant que des gens couraient, s'agglutinaient autour de nous, jusqu'à nous empêcher de marcher. Enfin, on me posa au pied d'un arbre, et l'on commença à me poser des questions. Heureusement, la madre arriva, fendit la foule, me serra dans ses bras en sanglotant.
Hijo mio, hijo mio, dejadlo, no ven que está cansado.
À la maison, la madre me lava dans un grand baquet, me coucha comme un enfant. Et je m'endormis dans cette chambre, qui fut la mienne pendant tout le temps où je vécus à Pina. Le lendemain, je me réveillai assez tard. Augusta attendait mon réveil. Louis l'avait chargé de se rendre compte de mon état et de me demander si je pouvais aller l'informer de ce que j'avais vu pendant mon exploration. Augusta avait 22 ou 23 ans. Ses parents étaient emprisonnés dans un camp et avaient fui l'Allemagne pour se réfugier en France. Mais devant l'impossibilité de poursuivre ses études de médecine et ne trouvant pas de travail, elle était venue en Espagne. Sportive, avec un corps digne de servir de modèle à un Michel-Ange ou un Cellini. Elle faisait le malheur de toute la gente mâle de Pina. Je dis malheur car elle semblait faite d'une glace d'un tel degré de froidure qu'aucune flamme humaine ne paraissait pouvoir la réchauffer. Pourtant elle était gentille, toujours souriante, prête à rendre service en toute occasion. C'est-à-dire aussi bien faire une reprise à un pantalon déchiré que préparer un repas en pleine campagne avec des moyens de fortune. Dans la maison du PC, je trouvais réunie la famille de Conchita au complet et deux copains qui venaient d'arriver et discutaient avec Louis. L'un était russe, Staradov Alexandre, nous devions devenir bons copains par la suite. L'autre était français, Georges, un parisien. La mère de Conchita se précipita sur moi pour m'embrasser et me remercier. La fille ne me reconnut pas et regardait stupéfaite ces démonstrations d'amitié. Ce fut le frère qui lui demanda ce qu'elle avait pour rester là sans faire un geste. Elle comprit alors que l'individu hirsute, torse nu, le visage dur mangé par la barbe et le jeune homme rasé de près, habillé d'une chemise et d'un pantalon bien repassé, était une seule et même personne. Elle ne sut que dire
« Ah, c'était vous ?»
Tout le monde se mit à rire. Après avoir mis au courant Berthomieux et les autres de mes faits et gestes à partir du moment où Conchita m'avait quitté, on s'en fut tous fêté le retour de la fillette.
Il existe quelques rares autres témoignages sur le groupe international de la colonne de Ruti. Charles Ridel, Charles Carpentier et Simone Veil, cités par Jiménez, ont fait connaître leur expérience sur le front à leur retour en France. Le premier, membre de l'Union anarchiste, envoyait déjà d'Espagne des articles aux libertaires. En août 1936, un comité pour l'Espagne libre se constitue avec Louis Lecoing comme permanent, et ce n'est pas le moindre des paradoxes que de voir fleurir à Paris des affiches exigeant des armes, des canons, des avions pour l'Espagne, de la part des militants pacifistes de toujours. Comme ce Scolari que cite Jiménez, beaucoup d'autres volontaires sur le front ou engagés en France ne supportent pas de voir tant de camarades sacrifiés dans une lutte inégale et aide au combat militaire.
meetings et expositions se succèdent et depuis août, chaque semaine, des camions partent de Paris pour Barcelone, pleines de vivres, de vêtements, mais surtout d'armes et de munitions, que des douaniers complices laissent passer. Mais cela est largement insuffisant dans une guerre de classe où Franco se déclare prêt à fusiller la moitié de l'Espagne pour rétablir l'ordre. Le 4 septembre, avec la chute d'Irun, où les miliciens se sont battus avec des revolvers, le ton monte à l'égard de Blum dans une adresse de l'anarchiste André Prodomo, diffusée dans la presse et à la radio.
« Merci, Monsieur Blum, pour le savant cours de droit international que vous avez donné du haut de la tribune de Luna Park. »
Le 6 septembre, Blum a tenté de justifier publiquement sa politique de non-intervention.
« Nous vous prions de bien garder en mémoire ce petit discours pour pouvoir le servir aux hommes de main du fascisme français le jour où ils viendront vous chercher à domicile. »
Triste prémonition, quand on sait que Léon Blum fut livré par Vichy aux nazis en 1940.
En s'emparant d'Irun, les factieux se sont assurés de la possession d'une des voies d'accès par laquelle le capitalisme français pourra, sous couvert de votre neutralité, et ravitailler en obus, en gaz asphyxiant et en torpilles aériennes. Il est grand temps que les ouvriers français qui fabriquent ce matériel de guerre sous votre contrôle fassent savoir pour qui ils entendent travailler, puisque vous-même semblez n'avoir pas d'opinion en la matière. Laissez-les contrôler la production, la vente et le transport des munitions en liaison étroite avec leurs frères d'Espagne. Et ne vous occupez pas du reste.
Crève à l'abcès, c'est le poison qui coule. Certains nageaient sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules. Oh, sombreros de la mer qui ont su traverser les océans du vide. À la mémoire de mon frère, dont les sanglots si longs faisaient couler la cide.
crois qu'on a des nouvelles qui nous viennent du Pays Basque, puisque dans des émissions d'avant, nous avions parlé de ce qui se passait contre toutes les infrastructures monstrueuses du Pays Basque Sud, et on avait d'ailleurs fait une émission avec quelqu'un qui fait partie du comité contre le TGV là-bas, et je crois qu'on a eu des informations par rapport à ce qu'ils avaient fait en janvier.
Oui, en janvier, donc il y a eu toute une campagne de mobilisation, de sensibilisation de la population, de conférences, de débats, de marches, et il y a eu également des motions qui ont été votées par pas mal de municipalités. Alors là, le point d'orgue de cette mobilisation, c'était le 4 février à Donostia, Saint-Sébastien, Donostia, où il y a eu plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui réclamaient, donc on le redit encore une fois, l'arrêt immédiat de tous ces projets d'infrastructure dans les provinces du Pays Basque sud de Guipuscoa, dont le TGV, il y a donc le TGV, le projet de TGV, le superport de Pasares, l'incinérateur et la méga prison de Zubieta, ainsi que l'extension d'un aéroport de l'aéroport de Fontarabi et la plateforme logistique de Gansu Itzketa. Voilà, alors donc il y a eu une très très forte mobilisation, et alors sans doute que c'est une réponse des oligarchies, hein, puisque on peut parler ainsi, ceux qui coûte que coûte, alors que le pays, l'État espagnol la population d'Espagne plutôt subit des mesures d'austérité absolument incroyables. Les lobbies du béton, eux, veulent coûte que coûte maintenir des infrastructures ruineuses qui vont perpétuer un endettement qui va durer quelques décennies. Eh bien, ce lobby, cette oligarchie, avait annoncé qu'elle organiserait une manifestation silencieuse. La majorité silencieuse favorable au projet de ligne TGV, Bordeaux, Hendaye. Et en fait, ils se sont dégonflés apparemment. Ils se sont repliés sur des invitations personnelles. Alors, je crois que c'était à la préfecture de Bayonne, oui, la préfecture, la chambre de commerce et d'industrie, oui. Où il y avait des élus MP et du PS, hein, main dans la main, puisqu'on sait qu'ils partagent les mêmes projets. Ces oligarques de droite comme de gauche, les industriels d'Aquitaine, hein, et des grosses pointures de Scadi comme Dassault, Maïs Adour, hein, donc l'agriculture industrielle et son maïs, et les patrons de PME et de TP étaient là, donc ainsi que des patrons de la grande hôtellerie pour manifester autour des petits fours que eux ils voulaient coûte que coûte de ces projets, mais comme ils sont tellement sur deux, ils avaient besoin d'être protégés par des CRS et des policiers d'élite, hein, parce que c'était pas pour se protéger du froid, c'était pour se protéger parce qu'il y avait des opposants dehors, accompagnés de tracteurs, donc des opposants anti-TGV et infrastructures, accompagnés de tracteurs et de vaches, de chevaux et de brebis qui ont séjourné devant la chambre de commerce et d'industrie, voilà, qui ont sans doute gâché la fête de cette oligarchie de la destruction. Camille, tu veux dire quelque chose ?
Oui, alors tu parlais des super projets au Pays Basque Sud.
J'en ai oublié un d'ailleurs. C'était il y a une prison énorme. Ouais. Oui, c'est ça, il y a un projet de méga prison également. Ouais. J'ai oublié de citer.
Donc tu parlais d'un incinérateur, on a parlé aussi déjà sur l'antenne de ce qui est appelé l'usine biomasse qui doit s'implanter à Givet, qui est en fait un incinérateur énorme. Et donc il y a eu une enquête d'utilité publique, la commissaire enquêtrice a remis son rapport par rapport à l'installation de cette usine biomasse, entre guillemets. Apparemment, elle a dit oui, parce que apparemment, quand on fait une enquête d'utilité publique, on répond toujours oui à la question qui est posée, mais elle a posé 26 conditions pour que cette usine soit réalisée. Et je pense que vu ce qu'il y a dans les 26 remarques qu'elle a fait, bon, il y a de fortes chances que cette usine ne soit jamais implantée dans la pointe des Ardennes.
Et alors, le rapport avec cet incinérateur, c'est le même type de projet, l'incinérateur du Pays Basque, c'est le même genre de...
Alors au départ c'est pas présenté comme un incinérateur, c'était présenté comme un projet donc de biomasse, c'était on faisait brûler du carton, du papier, voilà, sauf que dedans il n'y a pas que du papier, il y a du carton, mais il y a aussi plein de plastique. Et ouais. Donc c'est là donc la représentante de l'État qui était dans une réunion publique au moment de l'enquête d'utilité publique, a dit que ça ne pouvait pas être de la biomasse, c'est elle-même qui l'a dit, vu que il y avait du plastique dans ce qu'on faisait brûler, donc que ça ne pouvait être qu'un incinérateur.
Ok. Je crois qu'aussi, bon, ce week-end, vous avez eu des images, certainement, de ce qui s'est passé en Grèce, avec une révolte vraiment très très forte de la population d'Athènes. Il y a aussi le fait que, bon, ça c'est une chose, c'est évident que ça a chié. D'un autre côté, il y a d'autres choses qui sont peut-être aussi intéressantes, voire plus intéressantes, qui semblerait bien qu'en Grèce, il y a un certain nombre de mouvements sociaux qui commencent à se poser le problème de s'auto-organiser. C'est ainsi que dans un hôpital à Kilkis, c'est au nord de la Grèce.
C'est en Macédoine,
voilà, il y a cet hôpital, un hôpital donc qui est passé sous contrôle populaire. C'est-à-dire que les travailleurs de cet hôpital s'organisent. Ça a démarré il y a une semaine. Ça a pris de l'ampleur normalement ce week-end. Il y avait une assemblée générale aujourd'hui même, le 13 février. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, ils demandent la survie de leur hôpital. Ils demandent aussi le soutien au droit aux soins de santé publique et gratuits. Le renversement par une lutte commune populaire de l'actuel gouvernement et de toute autre politique néolibérale d'où qu'elle vienne, et puis il demande une démocratisation profonde et substantielle, c'est-à-dire une démocratisation qui permettra à la société réelle et non pas à des tiers de prendre des décisions concernant son avenir. Donc il semblerait bien que en Grèce, il y a des gens qui posent des problèmes en termes sociaux, en termes de contrôle social de leur lutte. Et il semblerait qu'on n'en ait pas seulement, même si ces manifestations sont nécessaires, seulement qu'à des affrontements de rue qui nous sont dits et ressassés par les médias. Et il y a aussi des choses qui se passent au niveau de la population. On sait aussi apparemment qu'il y a une autre action d'auto-organisation dans un journal qui emploie tout de même 800 personnes. Donc voilà.
Oui, moi je voudrais dire quand même, Denis, moi je pense qu'il n'y a rien d'antinomique dans ce que tu viens de citer. Les mobilisations colossales qui ont eu lieu à Athènes, à Thessalonique et tout ça sont partie intégrante de ce projet. C'est pas parce qu'il y a des affrontements. Il y a des affrontements extraordinaires avec la police qui est armée jusqu'aux dents et qui use de grenades offensives contre la population. Ce week-end, ce sont des dizaines de bâtiments qui ont été brûlés par les manifestants qui étaient de l'ordre de combien on pourrait dire 1 million, peut-être plus de personnes dans les rues. Donc effectivement, l'État grec n'hésite pas à user d'une violence inouïe contre la population. Il faut rappeler que il y a aussi des dizaines de préfectures, une dizaine de préfectures qui sont occupées. Il y a des mairies également qui sont occupées par les différents collectifs. Il y a eu des pillages de supermarchés d'organiser parce que la population va chercher la nourriture là où elle se trouve. Donc on a une situation qui est qui fait penser à une situation insurrectionnelle. On peut employer ce terme-là parce que c'est pas pour le printemps arabe seulement qu'on emploie ce terme légitime. C'est la légitimité des populations à se révolter contre un État qui a une politique criminelle à l'égard de la population. Alors il y a des tendances effectivement dans les mobilisations. Il y a la tendance du fameux parti stalinien, le KKE, avec sa force de mobilisation énorme qui essaye de bloquer les attaques contre le Parlement par les anarchistes. Ceux-là, évidemment, veulent absolument garder l'État. Hein, ils veulent protéger l'État quelque part et le Parlement parce que
ils veulent prendre le pouvoir.
Et ils veulent, voilà, c'est, je voulais y venir, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est de faire tomber le gouvernement et tenter de prendre le pouvoir. Donc il y a ces forces-là. Il y a aussi les forces des composantes fascistes qui ont, alors par stratégie, ont quitté le gouvernement, le Parlement. Faut-il dire aussi qu'il y a eu environ une quarantaine de députés qui ont quitté le Parlement. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que ce mouvement-là est de nature aujourd'hui à faire chuter ce gouvernement. En tout cas, c'est ce que nous, on souhaite vivement avec cette population en mouvement. Mais effectivement, on se demande aussi jusqu'où pourra aller à la fois la mobilisation. On sait que les gens sont très, très, très déterminés, mais l'État et sa police et son armée sont également très déterminés. Je rappelle qu'il y a eu beaucoup de blessés graves, qui ont subi des grenades offensives. Mais bon, la lutte continue et il y a l'occupation, il y a aussi une occupation dans la fac de droit, je crois, là où à Exarchia. À suivre, on va essayer de prendre des informations, voire des contacts plus précis pour pouvoir vous transmettre tout ça. Voilà.
D'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que nos bourgeoisies ont peur de ce qui se passe.
Oui, puis
en
Grèce, c'est souvent clair. Occulté. Toute cette dynamique de la population est totalement occultée. Bien évidemment, c'est intéressant, l'occupation de l'hôpital. Et tu parlais même d'un journal, mais il faut savoir qu'il y a un travail de fond qui est mené depuis des années par différentes personnes. On avait un compagnon journaliste, d'ailleurs, qu'on a eu souvent à cette antenne, qui fait partie d'un collectif de journalistes qui dénonçait l'oligarchie grecque et le pouvoir grec, quoi.
On a d'autres choses là, moins réjouissantes.
Ouais.
Ah, allez.
Alors c'est moins réjouissant. On va passer de là, on va parler de, vous savez qu'il y a une centrale nucléaire pour lesquelles certains antinucléaires réclament la fermeture, et la population autour de Fessenheim, donc c'est en Lorraine ?
Oui.
C'est en Lorraine, Fessenheim.
En Alsace.
En Alsace.
Ah, c'est en Alsace. Qu'est-ce que je dis, moi ? Oh là là, oui, c'est en Alsace. En Alsace, donc, il y a toute une population. Je crois qu'autour de Fessenheim, il y a plus d'un million d'habitants, 1 500 000 habitants, quelque chose comme ça. Oui, et donc, il y a une très, très forte mobilisation pour réclamer la fermeture de cette centrale. Et il est vrai que c'est sans doute la plus vieille centrale de France.
En fonctionnement.
En fonctionnement, oui, oui. Il y a un collectif, une intersyndicale, on va appeler ça comme ça, la CGT Mines Énergie, la CFDT Fédération Chimie Énergie, et la CFE-CGC, l'UNSA, et la FO, le syndicat FO Énergie et Mines, qui ont commis un tract vraiment que moi je qualifierais de nauséabond, quoi, et qui réclame la non-fermeture de la centrale de Fessenheim, alors en utilisant et en usant la rhétorique citoyenniste, alors comme quoi la terminologie citoyenniste peut être utilisée à toutes
les sauces.
À toutes les sauces et par toutes les, mais surtout pas à son sens d'origine, c'est-à-dire son sens révolutionnaire d'origine tel que nous on l'entend. Et alors c'est ce collectif-là réclame la non-fermeture. Donc ils ont commis ce tract quelques jours avant la visite du président français, qui évidemment, en bon populiste, leur a servi la soupe et leur a assuré que oh non, surtout pas, on ne fermerait cette centrale, mais que plutôt on chercherait des solutions pour la faire vieillir encore plus longtemps. Alors le ton, c'est vraiment un tract de merde, quoi. C'est alors l'acharnement, il parle de l'acharnement médiatique et la prise en otage politique pèse lourd dans l'état d'esprit des femmes et des hommes qui ont toujours eu pour priorité de ne pas trahir la confiance des usagers. Enfin, c'est particulier entreprise. Ils ne prennent pas à la légère l'accident de Fukushima qui les touche de près et regrettent que les souffrances des victimes de tsunami et de ses conséquences n'aient pas suscité la décence et la retenue nécessaires à l'empathie. La curée des inquisiteurs, portée par la peur et l'émotion, a écarté toute possibilité de débat. Ah voilà, voilà le ton, c'est comme si c'était la dangerosité de Fessenheim et du nucléaire en général, ça reposait sur ça. Là, ils invoquent le dogme, les positions idéologiques prises en dépit du bon sens, prive de réponse les interrogations pourtant légitimes sur la question du nucléaire, tirer profit de la peur en martelant de fausses vérités porte une atteinte directe à la démocratie. C'est en tout cas une stratégie de conquête du pouvoir indigne de l'enjeu auquel est confrontée notre société. Il manque pas de culot, hein, cela, quand même, parce que bien que la CFDT, à une époque dans les années 70, a fait partie des fronts antinucléaires lorsque le parc nucléaire français était imposé aux populations qui le refusaient. La CGT, elle, manifestait pour, on se rappelle, la centrale de Nogent-sur-Seine. Il y avait eu des mobilisations du syndicat CGT pour faire coûte que coûte cette centrale de Nogent. Alors qu'en fait, à un moment donné, EDF était prêt à renoncer au moins à la centrale de Chaux, voire peut-être même celle de Nogent-sur-Seine. On a donc, c'est toujours cette même dynamique où, dans une situation, on l'a vu au niveau international, qui démontre l'immense dangerosité du nucléaire, cette société, la société qu'elle induit. On a toujours ces mêmes establishments syndicaux qui sont prêts à défendre coûte que coûte, pour aller à la soupe et pour continuer à tirer un salaire minable du moment qu'ils en croquent, qu'ils en bouffent et qu'ils en crèvent aussi, quoi.
Qu'ils en crèvent.
Ouais.
Les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mains terribles, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. L'idéologie de la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique, de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer, maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas
de inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, c'était les Régoles par l'anarchiste communiste. Chaque semaine sur les Colis Grigues, Montpellier, Canal Sud à Toulouse, Radio Primitive sur Reims et puis aussi sur le net, OC Libertaire et le Chat Noir 51.